l'Agatha de Jésus pour ce dimanche, sixième dimanche. C'est une Agatha qui est quand même plus longue que d'habitude. Je ne sais pas, je suis assez long. Donc parmi toutes les... Tout ce que Jésus est venu dire au peuple d'Israël, il est venu dire qu'il était l'incarnation de la Torah. Tout ce qui est écrit, lettre après lettre, mot après mot, révélation après révélation, ça a été écrit uniquement pour le Christ. Tout a été écrit, tout ce qui a été écrit dans la révélation, ça a été écrit pour Jésus. Par exemple, quand je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir tous les préceptes, les 613 préceptes, et toutes les indications, tous les impératifs de la Sainte Écriture sont tous accomplis parfaitement dans la personne, dans l'humanité de Jésus. Tous. De sorte que quand nous, on rentre à l'intérieur de Jésus et que Jésus nous envahit, tous les préceptes de la Torah sont accomplis. Donc dès lors qu'on a la foi, on est libéré de la loi. Vous avez compris ou pas? Tous les préceptes, tous les commandements, tous les moindres préceptes, même les plus minuscules, sont été accomplis. Le moindre iode, c'est le moindre volonté de Dieu le Père. Iode. Les moindres fragilités, la paternité de Dieu dans la nature humaine, inscrites dans l'Écriture. Il y a 613 préceptes, disons, enseignés et connus, mais sinon, il y a bien sûr, il faut le multiplier par 362, disent les rabbins, pour avoir le nombre des impératifs qui sont inscrits dans l'Écriture. Il concerne tous Jésus. Jésus a accompli tous les préceptes. Il a été l'incarnation de l'accomplissement parfait de tous les préceptes. Alors, comme tous les préceptes ont trouvé l'incarnation un jour, j'avais fait un pèlerinage, le seul, je crois, de ma vie, pèlerinage à Jérusalem, et on avait assisté à une conférence du deuxième rabbin de Jérusalem. Et il n'était pas chrétien, et il nous a expliqué qui était Jésus, Yeshua Nazaréni pour lui, Jésus de Nazareth. Alors, Jésus de Nazareth, il disait pour nous, donc c'était quand même la deuxième autorité rabbinique de Jérusalem, c'était pas un petit rabbin qui traînait dans les quartiers, hein. Et donc c'était quand même quelque chose, on écoutait attentivement, on dit mais oui, c'est quoi? Alors il dit, ben, Jésus, Yeshua de Nazareth, que vous appelez Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, pour nous, nous on ne sait pas. On ne sait pas dire, on ne sait pas trop. Par contre, une chose qui est sûre, c'est quand on regarde jusqu'au fond, ce qui est advenu à Yeshua, Jésus de Nazareth, on ne peut pas dire, et nous sommes tous d'accord, que tous les préceptes, ils ont été parfaitement réalisés et accomplis par ce Jésus de Nazareth. Et que c'est le seul personnage d'Israël qui a accompli tous les préceptes parfaitement, intégralement et tous ensemble, sans en excepter aucun. Il y a eu la Torah, la révélation, c'est-à-dire la Genèse, le livre des Nombres, le Deutéronome, et le Lévitique en particulier, donc toute la Torah qui comprend toutes les prophéties, toutes les indications, toutes les lignes de force, et tout ce qui doit être respecté dans l'humanité, brûlé par le puissant ardent de la volonté de Dieu, et ce qui fait la Torah, et dire, on ne peut pas dire une chose. Donc pour nous, Jésus de Nazareth n'est sûrement pas l'incarnation de Dieu, on ne dirait pas ça. Parce qu'en fait, On est totalement incapable de le dire, totalement incapable de le proclamer, totalement incapable de le croire. Mais par contre, une chose est sûre, ce qu'on est capable de proclamer, c'est dire que la Torah a trouvé sa manifestation incarnée dans l'unité de la révélation en une personne, et cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Il est l'incarnation de la Torah. Pour nous, les Juifs, pour nous, pour la tradition d'Israël, la Torah, c'est presque aussi important que Dieu. Puisque Dieu doit obéir à la Torah. Parce que Dieu, en donnant la Torah, il a donné l'expression de son dabar, pardon, de son verbe, de sa parole, de son expression, il est l'expression. Et ayant donné cette expression de manière concrète dans la création, il est obligé de s'y soumettre. Et celui qui s'est soumis et qui l'a accompli et qui l'a manifesté, c'est Jésus de Nazareth. Et si Dieu se soumet, se met en dessous et en dépendance de la Torah, ça prouve que la Torah et Dieu sont aussi importants dans l'unité des deux. Donc Jésus, pour nous, c'est l'incarnation de la Torah. Il a accompli tous les préceptes. Même ceux qui ne croient pas, et Saint Paul se délecte, bien sûr, avec cette évidence. Et il dit, voilà, Jésus a accompli tous les préceptes de la Torah, tous. Parfaitement. Chaque précepte est complètement, parfaitement accompli par lui. Le moindre d'entre eux. C'est merveilleux de savoir ça. Moi, je trouvais ça, j'écoutais ça et je trouvais ça que c'était. Vous savez très bien que le magistère d'Israël ne supporte mal qu'on dise que Adonai, le Seigneur, Eloi, ce soit lui-même qui soit Jésus de Nazareth, que Jésus de Nazareth soit lui-même Elohim. Non, non, ça, ils ont du mal avec ça. Et ici, dans l'Évangile, Jésus dit, voilà, je ne suis pas venu pour supprimer la Torah. Je suis venu pour manifester et accomplir, être l'incarnation même de la Torah, l'accomplir dans moi, dans ce que je suis. Il est. Et donc il dit la même chose que ce rabbin, ce deuxième rabbin de Jérusalem à l'époque. Et puisqu'il est lui-même l'incarnation de la Torah, donc je répète ce que je disais tout à l'heure, si nous pénétrons à l'intérieur de Jésus, que il nous appartient et que nous sommes. Il a toute liberté d'être totalement à nous dans l'intériorité de notre vie de chair, de sang, d'esprit et de grâce. Et on est totalement Christ. Si on est totalement en lui, alors on est totalement dans l'accomplissement de la Torah. Et donc, bien sûr, on n'a plus besoin d'aller sur la connaissance, l'apprentissage des préceptes de la loi. Puisque par la foi, nous avons déjà l'accomplissement de la Torah en ayant Jésus, qui est l'accomplissement de la Torah. Donc nous ne vivons plus de la loi, nous vivons de la foi. Et la foi nous fait pénétrer à l'intérieur de Jésus, ouvrir tous les espaces intérieurs de lumière céleste, spirituelle, surnaturelle, qui permettent à la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ d'habiter entièrement, totalement en nous par la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est la personne de Jésus, le Verbe de Dieu, la parole, l'expression de Dieu, dans la manifestation, l'expression de l'amour sous toutes ses formes possibles, accomplies, qui vit en moi. Alors je n'ai plus besoin d'avoir le souci du respect des préceptes de la Torah. Il les a accomplis. Et donc, j'en suis imbibé, je suis imbibé de l'accomplissement de tous les préceptes, sans exception, en étant totalement imbibé de l'union transformante. Je suis dans l'au-delà de l'unité des deux, avec Jésus et moi, je suis dans l'au-delà de l'unité des deux. Il y a entre moi et Jésus, et le Verbe éternel de Dieu, l'épouse, la responsabilité incréée, éternelle, créatrice, et puis manifestation incréée de la toute-puissance, elle-même toute-puissance de Dieu. Elle est en moi et il y a en moi une communion, une unité, une complémentarité et un au-delà de l'unité des deux qui fait que je suis arrivé par la foi à la présence incarnée de Jésus dans la chair qui m'a été donnée par le Père, et dans cette odeur d'unité des deux qui réalise le point de vue de la foi, j'ai bien sûr l'accomplissement de tous les préceptes de la Torah. La foi me fait rentrer dans l'inutilité de la loi. Alors, je n'ai plus cette espèce de préoccupation, d'autres préoccupations que de rentrer dans la communion des personnes avec Jésus. Et la personne de Jésus, contrairement à ce que disait le rabbin, ce qui fait la substance de Jésus, ce n'est pas la Torah, ce qui fait la substance de Jésus, c'est le logos, c'est le verbe, c'est le Dieu vivant, créateur de tout ce qui existe dans la sagesse créatrice de la croix. Et c'est par la foi que je reçois cette puissance de la sagesse créatrice du Verbe de Dieu, dans la sagesse créatrice de la croix, dans moi, j'en suis le tabernacle, et cette grâce surnaturelle vient comme le vin dans l'eau, faire subsister la subsistance de mon âme dans la chair, dans mon esprit, et dans mon assomption à l'intérieur de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la foi qui fait ça. Alors, je n'ai plus besoin de la loi. Donc, si vous rencontrez un jour, voilà, vous avez regardé des films et tout ça, et puis vous prenez dans la rue, vous êtes étudiant, vous avez 22 ans, et puis vous êtes un jeune homme très... très vivace, très sensuel, très sensitif, tout ça. Vous rencontrez une petite jeune fille qui est très, très, très ouverte, n'est-ce pas ? Qui est très inversée dans la signification sponsale de son corps, qui est télékinésiquement très attrayante, etc. Vous la regardez. Bon, c'est ça, dans le sens inverse, ça marche aussi, bien sûr. On est d'accord. Celui qui regarde une femme pour la désirer a commis l'adultère. Et tu dis, après tout, c'est pas ma faute. Attends, elle ne demande que ça. Je veux dire que j'y peux rien. C'est comme si tu ne peux pas reprocher à un aimant qui est ici, si tu rapproches un aimant à côté, qui se colle à lui. N'est-ce pas? C'est ça. Hein. Et Jésus dit, non, non, tu poses pas ton regard, parce que la signification sponsale du cœur est la chose la plus importante, est la chose la plus importante de l'image et ressemblance de Dieu. Dans le corps originel est inscrit le oui à la signification sponsale du corps. La signification sponsale du corps n'est absolument pas liée à l'attraction télékinésique de l'union sexuelle, de l'union conjugale, si vous préférez. Quand je dis l'union conjugale, je prends ce mot exprès parce qu'il y a l'unité de... Il y a le mot joug, c'est le joug qu'on met sur deux bœufs, vous savez. Vous mettez un joug sur les bœufs et vous avez le couple des bœufs qui tire, conjugal. Donc la conjonction des bœufs n'a rien à voir avec la signification sponsale du corps. Le corps masculin ou le corps féminin, le cœur masculin, le cœur féminin, la liberté originelle du don, lorsqu'il est structuré par la signification sponsale du corps féminin, n'a rien à voir avec la signification sponsale de la liberté du don dans le corps originel, lorsqu'il est fulguré dans la signification sponsale du corps masculin. Le regard qu'on a, c'est un regard de liberté. De liberté dans l'ordre du don. Donc il n'y a pas d'attraction irrésistible. Le regard qu'on pose de concupiscence qu'on porte sur quelqu'un d'autre est un regard qui n'est pas naturel. Et donc Jésus dit, non, vous ne pouvez pas faire ça. Quand Jésus pose son regard sur Marie, il pose son regard sur son immaculée conception. Et quand Marie pose son regard sur le nouvel Adam, elle pose son regard sur son union hypostatique. Alors il est pleinement fils d'homme et elle est pleinement reine, femme, mère de tous les vivants, source de vie, épouse, reine et mère. Le regard qu'on pose, c'est le regard de l'homme sur la femme, le regard de la femme sur l'homme. C'est un regard sponsal, ce n'est pas un regard de couple, ce n'est pas un regard animal. Ce n'est pas non plus un regard sentimental. Ce n'est pas non plus un regard de splendeur. C'est le regard de Dieu qui est en train de créer une image et ressemblance de la sponsalité incréée de l'époux et de l'épouse qui sont à l'origine dans cette sponsalité parfaite, dans la sagesse de la croix de créer la matière vivante. Cette matière vivante est immédiatement créée dans la sagesse créée, dans l'union de Jésus crucifié et la transverbération de Marie. Et donc, si vous êtes entièrement dans le Christ par la foi, il n'y a plus jamais un seul regard qui se pose directement, sans la médiation de la sponsalité incréée et de la sponsalité incarnée dans votre liberté, dans l'ordre du temps. Je prends donc un seul exemple sur les 613 préceptes, sur ceux que Jésus signale ici, pour exprimer ce que Jésus a accompli. Si je rentre totalement dans l'union transformante et que c'est Jésus qui vit en moi, alors je redeviens pleinement homme, je redeviens pleinement enfant, je redeviens pleinement libre, je redeviens pleinement femme. Je revais l'habit intérieur de cette sponsalité libre qui permet de rentrer dans l'unité parfaite, centuplé, myriadisé de l'amour de l'homme et de la femme. Et donc, quand Jésus dit quelque chose comme ça, disant, tu regardes une femme, tu as commis l'adultère, ça veut dire tu ne peux pas rentrer dans la grâce. Le simple regard t'interdit de rentrer dans la grâce de Dieu, dans la grâce sanctifiante. Le simple regard, ce n'est pas quelque chose d'inouï, c'est évident. C'est évident. Il ne faut pas dire, si vous dites, oh, ce que Jésus quand même un petit peu est exigeant là. Non, non, Jésus n'est pas exigeant. Si vous dites Jésus est exigeant, ça veut dire que vous avez une relation avec Dieu et avec Jésus qui est en fonction de la loi. Ah, la loi est exigeante. Mais Jésus, il n'enseigne pas la loi. On n'est plus dans la loi. On est dans la foi. Et c'est là qu'on voit que la foi, c'est quelque chose d'autre que la loi. C'est pas exigeant. La foi, c'est pas unique. Vous jamais vous allez dire, qu'est-ce que c'est exigeant la foi? La foi, c'est pas exigeant du tout. C'est extraordinaire la foi. La foi, c'est simple, puisque c'est lumineux. C'est la lumière. Elle est libre, cette lumière. Et elle permet, de là où je suis, de pénétrer immédiatement de l'intérieur et en même temps de l'extérieur, mais de l'intérieur et de l'extérieur, de manière immanente et de manière transcendante en même temps, de toucher substantiellement, réellement, lumineusement et physiquement, la substance de Dieu. Je touche Dieu. Je touche d'abord l'existence de Dieu, même sans la lumière de la foi. Je touche Dieu dans la Créateur. Et je touche Dieu. Dieu me touche. Et ce toucher mutuel fait qu'il y a l'unité de Dieu, de moi, dans moi, dans la lumière. Et du coup, il y a cette lumière d'intelligence. Cette contemplation, je rentre à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de Dieu. Et si la lumière surnaturelle de foi, de la foi pénètre cette lumière qui me fait rentrer dans l'intérieur de Dieu, alors à ce moment-là, je rentre dans l'intérieur de Dieu, de la personne du Père. Et je rentre dans l'intérieur de ce qui est à l'intérieur du Verbe de Dieu. Je touche ce qui est à l'intérieur de l'intérieur du Christ. Dans ce qu'il y a de plus profond, de plus subtil, de plus substantiel, de plus digne, de plus élevé dans la substance lumineuse de la personne du Christ. Dans ce qu'il voit, dans ce qu'il est. Je le touche, j'y adhère. J'y adhère, j'y adhère. J'y adhère. Je l'entrevois, j'y pénètre, je m'y engloutis, je m'y écoule délicieusement, je vais jusqu'à son centre, je disparais merveilleusement et il n'y a plus que lui. La foi fait que je suis envahi parce qu'il y a de plus digne, de plus élevé, de plus grand, de plus substantiel dans le Christ. Alors il n'y a plus aucune exigence. Il n'y a pas d'autre exigence que celle de la foi. Et évidemment, une fois que je suis en lui, je suis. Et c'est parce que la connaissance, la lumière, l'union fait naître immédiatement la liberté et l'amour. Alors, le Saint-Esprit vient là et brûle tout dans un amour indicible, ineffable, universel, transformant, efficace, fécond, royal, glorieux. Et si je vis ça avec l'intensité de l'Immaculée Conception, avec l'intensité de la plénitude reçue glorieuse de l'Immaculée Conception, alors à ce moment-là, la foi devient une foi catholique. Et c'est pas exigeant. Et bien évident qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus besoin de la loi. C'est l'évidence même. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette parole un peu énigmatique que Jésus dit. Écoute, si ton œil droit est pour toi une cause de péché, hein, prenons par exemple André, si son œil droit est cause de péché, ben, ou sa main droite est cause de péché, bon, ben, du coup, tu regardes, non, tu regardes de manière pure avec ton œil gauche, mais avec ton œil droit d'une manière impure. Ah, il vaut mieux que tu arraches ton œil, comme ça tu rentres borgne au ciel, mais au moins tu ne rentres pas tout entier dans le tartare. Bon, est-ce que tu as vu beaucoup de catholiques qui ont suivi ce précepte évangélique? Parce que si ce précepte était un précepte évangélique qui sort de la bouche de Jésus, on n'a jamais vu ça dans l'Ancien Testament. Donc ça veut dire que tous les chrétiens, si tous les chrétiens suivaient les préceptes évangéliques, il y aurait énormément de borgnes. Hein? Et beaucoup de manchots. Vous n'avez pas remarqué que nous avons deux yeux, que nous avons deux mains.
Se couper de Dieu, c'est pire que se couper les mains.
Pardon, se couper. Oui, se couper de Dieu, c'est pire que se couper les mains, ça c'est sûr, c'est ce qui dit Jésus. Il a dit arracher, hein. Tu vois, tu prends une corde, tu prends des chevaux là, et d'un côté et de l'autre, et si tu arraches, là, tu comme on voit dans les films. Vous voyez les films qu'on regarde quelquefois maintenant, c'est horrible, on trouve ça amusant en plus. Arracher la main, arracher l'œil. Qu'est-ce que Jésus nous dit là? Il nous dit quoi? Pourquoi est-ce qu'on a la droite et la gauche? Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire? La droite c'est le Père et la gauche? C'est la mère. Donc tu peux arracher le père, mais pas la mère. Bon.
Moi j'ai dit la droite, c'est la mère, c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai dit la droite.
Donc, c'était un correspondant avec le Moyen-Âge, mais il disait la destre, main de Dieu, la céleste, la sinistre, main du diable. Alors je sais pas
si. Mais c'est la droite qu'il faut arracher alors. Donc c'est.
La droite, c'est tout ce qui est spirituel.
Mais la droite et la gauche sont toutes les deux spirituelles. Oui. Vous pouvez aimer. On peut aimer d'un amour humain parfait, naturel. Mais vous pouvez aussi aimer d'un amour divin parfaitement surnaturel. Voilà la différence entre la droite et la gauche. Mais si votre amour humain, qui vous apparaît absolument parfait et naturel, vous empêche de rentrer dans l'amour humain parfaitement surnaturel, alors il vaut mieux renoncer à l'amour humain parfaitement naturel. Parce que l'amour humain parfaitement naturel n'existe pas. Et vous, quand vous regardez quelque chose, vous le regardez avec les deux yeux et dans la même direction. Et vous ne pouvez pas regarder d'un amour humain parfaitement surnaturel et en même temps d'un amour humain parfaitement naturel avec l'œil droit. La droite, c'est le dominium, l'autorité. C'est là où c'est le pouvoir. La gauche, c'est là où c'est le Christ qui a tout pouvoir. Alors tu renonces, effectivement, s'il faut que tu renonces à ta propre autorité sur toi-même et à ton pouvoir d'amour, même naturel, alors renonce-y, parce qu'il vaut mieux rentrer sans l'amour naturel et rentrer au ciel avec l'amour et la lumière surnaturelle. Parce que dans l'amour surnaturel, il y a la présence naturelle de l'humanité du Christ accomplie, parfaite par la loi et par la foi. Donc tu as l'amour parfaitement naturel dans le Christ, alors tu peux arracher ta main. Arracher ton œil droit. La foi, c'est pas exigeant. Elle exige simplement qu'on rentre dans la disponibilité à l'accueil, la réceptivité, l'accueil et le don et la réception substantielle du don. Et l'utilisation parfaite de ce don dans l'humilité substantielle qui est la nôtre dans l'autre. Alors dis non, par exemple, à mon cœur humain, et je dis oui à mon cœur divin. Quand on fait les exercices d'amour pneumato-surnaturel, hein, dans le PPP1, on fait bien une semaine d'exercice continuel pour dire non à l'amour humain, au cœur humain. Non au cœur humain. Parce que le cœur humain est un cœur qui cherche le dominium, cherche le contrôle, cherche à toujours avoir un amour humain encore plus grand. Mais comme le cœur humain n'est absolument pas une source d'amour, parce que l'amour s'impose à nous, l'amour est toujours au-delà du cœur humain. Et par conséquent, le cœur humain n'est pas une source d'amour. Donc plus il cherche à être un cœur qui aime humainement parfaitement, moins il aime parfaitement, plus il est décevant, plus il est exaspérant, moins il est écouté, plus il est rejeté, plus du coup il cherche à reprendre le contrôle et il rentre dans un esprit d'amour, de contrôle, comme si l'amour consistait à contrôler celui qu'on aime. Puis ensuite, finalement, il devient un amour exaspérant, un amour déçu, un amour de rage, un amour, et finalement, un amour de haine et de destruction. L'esprit de contrôle se transforme en esprit de destruction. On voit ça très bien dans la troisième vague. L'esprit des saints, de l'amour, de la Pentecôte de la troisième vague, est un esprit de contrôle. Puis après, un esprit de destruction. Puis après, un esprit métapsychique. C'est un cœur métapsychique. Alors ça devient un cœur d'amour des profondeurs, puis un cœur de ténèbres. C'est ça le processus du cœur humain et de la main droite. L'acte d'amour, de l'amour humain, est destiné à être arraché de nous. Pour qu'on rentre avec l'amour humain surnaturel, dans la plénitude de l'amour humain, dans l'unité indissoluble de cet amour humain et de l'amour divin. Beau, ça. Dans l'unité sponsale, entre l'époux et l'épouse, on a arraché le couple. Vous voyez, le couple n'existe plus, on l'a arraché parce que le couple, c'est les bœufs, les homosexuels ou les privautés de l'amour de similitude. On l'a arraché de nous et il n'y a plus que la sponsalité. La sponsalité, c'est je ne perçois le cœur de ma moitié sponsale que dans la plénitude de son accomplissement et de sa liberté dans l'ordre du don, dans la plénitude de Dieu, dans le Christ. Je ne pose pas un seul regard sur ma moitié sponsale si c'était en passant justement par la, pas par la médiation, mais par, par les sources directes de l'amour du corps, de l'âme, de l'esprit et de la sponsalité incréée de Dieu dans la Créateur qui fait qu'elle aime ma moitié sponsale et que je suis immédiatement dans l'au-delà de l'unité sponsale pour la retrouver dans l'au-delà de l'unité sponsale, dans la sponsalité incréée de Dieu. Alors à ce moment-là, elle devient femme et mon épouse. Si je ne suis pas passé par là, elle n'est pas mon épouse et la relation est adultère. Et Jésus, quand il dit ça, eh bien, il dit la vérité. Ce n'est pas exigeant du tout, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus l'onction est beaucoup plus extraordinaire, le resplendissement et la surabondance permanente, l'intensification beaucoup plus grande, l'amour ne cesse de s'intensifier, et la charité au milieu de tout ça ne cesse de palpiter le cœur sacré de Jésus dans le cœur unique des torrents d'amour de l'au-delà de l'unité sponsale des deux dans un seul cœur. Et du coup, l'unité sponsale devient le récepteur de la transformation du monde, de l'enfance spirituelle glorieuse. Donc Jésus ne dit pas quelque chose d'exigeant, il dit quelque chose de facile, il dit quelque chose de simple, il dit quelque chose de merveilleusement. Il suffit d'ouvrir les bras, de rentrer dans la signification sponsale du cœur originel, dans la unité sponsale, la sponsalité et la liberté dans l'ordre du don vont ensemble dans le cœur sacré de Jésus. Jésus, c'est l'accomplissement de la Torah. Alors nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la foi. Et c'est évident que suivre la foi, c'est infiniment plus simple que de suivre la Torah. Bon, c'était un petit cours de théologie biblique.